Bonjour à tous. Au sommaire cette semaine, de la peinture, le cinéma, la musique et la littérature. Littérature, on va revenir sur l'attribution du prix littéraire le plus prestigieux pour les auteurs écrivains en français, le Goncourt, décerné en début de semaine à l'écrivain romancier Jean-Paul Dubois. Et puis le retour au Maroc des semaines du film européen, une occasion unique de voir plein de cinémas différents. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Pour commencer, on parle de jazz avec un saxophoniste qui arrive dans quelques jours sur notre continent. Sa tournée va passer par Casablanca, par Tanger, par Abidjan. C'est un boulimique de musique. Depuis le début de sa jeune carrière, il s'est frotté à plein de genres différents. Il multiplie les collaborations, comme sur son premier album avec un rappeur américain installé à Paris. Il s'appelle ce rappeur Théo Rhétorique. Écoutez ce que cela donne. Le titre, c'est Get Started, et on retrouve Rodolphe Loretta, notre saxophoniste, juste après. Yeah.
You know what the deal is? K.O.E. Knowledge over everything.
Midi, un bain de culture avec David Labo.
Back up, back on. Keep your NASCAR, take your hats off. Busted, law dog, it's big for Sasquatch. I kick shit, cast off. You was out here for an idea. Y'all dudes, knock off. Sick long and an off day. Southside with an office. The name, whatever your brand is. Y'all sort of flying the man is. We control this. Bow print, paintbrush with an omen. More money, momentum. Less time, patience. Doc said, hot space, off limit. All I know, my shit, pop in. Sambo, off limit. Four chains running around. Five squads, we're gunning them down. Predators, I wait for them. You can pray for them. I'll be hunting them down. Huh. I always rooted for the underdog. The rejects you left behind, we told them come along. Copy that. Yeah, this one's for the copycats. Head nod to your neck lock. Beg pardon, gotta get it started. Get started. My soul full scrolls, bow to succeed. You, Joe's blow. Fuck that. Baggage heavy, I unpack. They want that. Jazzy, that savage, that compact. It ain't my fault I'm this nice, don't be mad at me. I could kill him in tuxedo or a casualty. Lay back, taking it easy, call me casualty. Acting stuck up, you cook it, stuck up. Ain't it, Pepe, thank you, MJ. Who's like, who you, do you, Kim K. One man, all man, don't need no posse. Bitches, motherfucker, 3-6, mafia. High as fuck, I be up here, went down trial, now we upstairs. Dope fiend, do a rap guy, know you smoke, we ain't got it unfair. Holla back, movement, we a part of that. Head nod to your neck, lock, bang hard, gotta get started. Get started, yeah. You know my man Ryan had to get at him wrong.
De culture, le concert.
Bonjour Rodolphe Loretta.
Bonjour David et bonjour à Medi 1. Merci pour cette interview.
C'est tout naturel. Les passionnés de jazz en France, vous voyez écumer les clubs parisiens depuis de nombreuses années, vous courez les festivals. Je vous propose de revenir tout d'abord sur votre parcours. Vous êtes né à Amiens, dans le nord de la France, d'un père martiniquais, d'une mère guyanaise. La pratique de la musique, vous la découvrez grâce à une association qui prête des instruments dans votre quartier. Vous choisissez le saxophone. C'est un alto. Vous avez 16 ans, je crois, et ça vous plaît assez rapidement.
Alors oui, oui, c'est comme ça. En fait, pour préciser, ma mère nous avait inscrit, mon frère et moi, au conservatoire. Mais sauf qu'on est resté un an et on n'a pas du tout, on avait 11 ans, quoi. Et on n'a pas du tout pris le pli, quoi. On n'a pas vraiment accroché sur le coup. Donc moi, je suis ressorti de là, j'ai fait un an ou deux et je n'avais rien appris du tout parce que je n'étais pas intéressé, quoi. On s'intéressait plutôt au tennis à l'époque avec mon frère. Donc ensuite, il y avait dans la ville d'Amiens, il se trouve qu'il y avait un festival de jazz malheureusement qui n'existe plus, qui s'appelait le Festival International de Jazz d'Amiens. Et il y avait une partie des concerts qui se trouvait sur une place au centre-ville en plein air gratuit. Et donc quand j'avais 16 ans, je pouvais assister à tous ces concerts. Ça m'a beaucoup inspiré et c'est à partir de là et aussi du fait que j'écoutais beaucoup de rap, tous les samples qui étaient utilisés par les beatmakers, les personnes qui faisaient les musiques de ces morceaux de rap, la plupart étaient tirés soit de disques de funk ou de soul, soit de jazz. Donc du coup, j'ai commencé à me demander d'où venaient ces samples que j'entendais dans ces morceaux de rap. Et j'en suis arrivé à découvrir James Brown, mais aussi des JBs, ces musiciens, Maceo Parker. Je crois que le premier solo que j'ai dû relever à l'époque, c'est Maceo Parker sur Soul Power.
Quand vous dites relever un solo, c'est que vous prenez en note les notes de musique que vous entendez, vous le reproduisez avec votre instrument.
Et de reproduire, voilà, exactement. Sans se servir des partitions, juste à l'oreille. Et en essayant d'être au plus proche des inflexions du musicien qu'on reprend. Donc avec tout ça, j'ai commencé à accumuler la bibliothèque, la médiathèque, à aller vers les disques de jazz. J'étais intrigué de voir tous ces musiciens sur les pochettes des albums de jazz habillés en costume, avec des chapeaux, des looks très classe, mais en même temps originaux. J'ai commencé à écouter Coltrane et j'ai commencé à voir à travers les magazines de jazz et les dossiers. Il y avait des dossiers de plusieurs pages sur John Coltrane, écrits de manière très très sérieuse, presque scientifique. Et je me demandais, mais qu'est-ce que c'est... Il y avait ce truc de mimétisme aussi, parce que je suis d'origine des Antilles françaises et donc nos ancêtres viennent d'Afrique. Et du coup, je me disais, pourquoi ces journalistes français parlent d'une façon aussi importante de ces musiciens noirs, à comprendre l'importance, en fait, de toute cette lignée de grandes légendes du jazz et tout ce qu'ils ont apporté au monde, non seulement dans la musique, mais aussi en termes philosophiques, en termes stylistiques. Donc du coup, voilà, pour moi, ça a été une révolution. J'ai commencé à voir les films de Spike Lee. À l'époque, Spike Lee, le réalisateur de Brooklyn, il avait cartonné avec Do the Right Thing et avec aussi avec Mobetter Blues et Denzel Washington.
Si je me souviens bien, qui parle vraiment de jazz. On est dans des clubs de jazz dans ce film, ouais.
Et d'ailleurs, les musiciens qui jouent dans les scènes de musique dans ce film sont des vrais musiciens.
Rodolphe, vous nous parlez de vos origines antillaises, vous nous expliquez qu'en parcourant comme ça les rayons de la médiathèque d'Amiens, vous découvriez ces musiciens de jazz black aux États-Unis, les films de Spike Lee dans les années 90. Et puis je crois que vous avez aussi un grand frère qui est passionné de jazz lui aussi. Et qui ramenait des disques à la maison. C'est ce que j'ai lu, notamment cet album de Miles Davis, Kind of Blue, qu'on écoute un petit peu en ce moment.
Il a ramené Miles Davis, qui a ce côté un peu plus feutré. Et il a ramené aussi ce jour-là, il a ramené un vinyle de saxophoniste, flûtiste, clarinettiste Eric Dolphy, qui a un beau côté beaucoup plus justement. Il a un côté plus cru, beaucoup plus ouvert, même si dans Kind of Blue de Miles Davis, il y a quand même John Coltrane qui commence à l'époque déjà à sortir un peu des sentiers battus. Le tout est quand même beaucoup plus feutré, beaucoup plus grand public dans le disque de Miles Davis que dans celui d'Eric Dolphy.
Vous nous avez parlé de vos débuts avec cette découverte donc dans votre quartier de plein de types de musique, de ce festival d'Amiens qui malheureusement s'est arrêté il y a quelques années, mais qui effectivement c'était un festival qui avait une certaine renommée en France. Ça vous a permis d'assister à de la musique live, de faire des rencontres. Vous avez fondé avec votre frère, le fameux frère dont on parlait, et un ami, un groupe de funk. Vous vous êtes aussi essayé,
exactement,
quand vous étiez vraiment jeune, au mandingue, la musique traditionnelle d'Afrique de l'Ouest. Vous avez fait aussi du rock,
exactement,
à l'époque.
Ouais.
Ça, ce côté inclassable, curieux, touche à tout, le fait de picorer comme ça à droite et à gauche, ça vous résume assez bien, non?
Exactement, ouais. Ouais, c'est pas le genre musical ou le style qui importe, c'est vraiment l'artiste et ce qu'il a raconté. Quelqu'un qui fasse de l'électronique ou derrière un ordinateur, ou un musicien ou un chanteur ou un percussionniste ou quelqu'un qui joue un instrument traditionnel, voilà. Personne n'invente. N'a inventé la roue, quoi. Mais chacun a son petit grain de sel à mettre dans tous ces grands courants musicaux. Quoi.
On écoute un extrait de votre premier album, l'album Raw. Le titre s'appelle Versant. Voilà, Versant, avec vous, Rodolphe Loretta. Ce premier album, c'est un album qui est sorti il y a combien de temps ? Il y a un an, deux ans ?
Il est sorti à l'automne 2017. Mm-hmm. Donc on a été très contents de la sortie parce qu'il y a eu un très bon retour de la presse, notamment la presse spécialisée jazz en hexagonale. Voilà, ça m'a conforté dans l'idée de faire une musique qui ne soit pas juste réservée à des gens qui sont des spécialistes du jazz, mais de faire une musique qui peut parler au cœur de chacun et chacune.
Ce premier album sorti en 2017, il y a deux ans, et puis un autre en préparation qui va sortir bientôt, je crois.
Voilà, donc le premier album était en trio. L'idée c'était de faire un trio sans piano, sans guitare, donc avec la contrebasse, la batterie et le saxophone, exactement comme la formule qui va tourner au Maroc. Et à Abidjan dans une semaine. Et le prochain album, il sera dans une autre formule avec plus d'invités, notamment axé autour de la voix. Donc il y aura des rappeurs. Il y aura des rappeurs prestigieux dont je ne peux pas encore citer le nom, de rap français et de rap aussi américain, un californien. Donc ce sera un propos musical différent. On fera plus de musiciens à jouer. Ce sera pas un trio, ce sera... Voilà, on aura du clavier, de la guitare électrique, la trompette, et surtout donc des invités au rap.
Prestigieux, mais on ne peut pas encore savoir lesquels. En attendant, Rodolphe, on vous attend de pied ferme chez nous en Afrique. Dans quelques jours, vous serez avec votre trio, Clément Cric à la batterie et à la basse électrique, Emmanuel Candy. Samedi prochain, vous serez à Tanger. Les places du concert sont disponibles à la librairie des Insolites que les Tangérois connaissent bien. Dimanche, dans pile une semaine, au studio des Arts Vivants de Casablanca. Et puis la semaine suivante, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, le 20 novembre, à la Fabrique Culturelle. Il y aura des invités sur scène, des artistes ivoiriens, notamment des danseurs, vous m'avez dit. Le 22, toujours à Abidjan, au Music Hall. 97.2, la fréquence de Média 1 à Abidjan, je le signale au passage. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Merci Rodolphe Loretta d'avoir accepté l'invitation de Bain de Culture. À bientôt à Tanger.
À bientôt.
Média 1, Bain de Culture avec David Labo.
Et on repart en musique dans Bain de Culture. La très belle voix de Lindsay Aboudé. Elle vient du Nigeria et elle sera bientôt à Rabat, figurez-vous. On l'écoute et juste après, je vous dis pourquoi.
My freedom.
Faux air de Shadé pour les moins jeunes d'entre nous, la chanteuse nigériane Lindsay Aboudé, bientôt au Maroc, bientôt à Rabat, je vous le disais, tout simplement parce qu'elle fait partie des nombreux invités de Visa for Music. Cette année, le Festival des musiques d'Afrique et du Moyen-Orient revient. C'est dans 10 jours, du 20 au 23 novembre, la 6e édition. On vous en reparlera la semaine prochaine. Pour l'heure, on part ensemble au Sénégal, on parle peinture maintenant, à la découverte d'un artiste singulier, Aliou Diack. Son travail est exposé actuellement par la galerie OH dans le centre de Dakar. Aliou est originaire du petit village de Sidi Bougou, dans la région de Mbour. Il a 10 ans quand sa famille quitte le village pour s'installer à Dakar, mais cette enfance passée comme cela au milieu de la nature, elle a laissé en lui une empreinte indélébile, des souvenirs, des sensations. Pour Bain de Culture, notre correspondant à Dakar, César Miremont, est allé rejoindre Aliou Diack dans son atelier.
C'est ce lieu qui m'a bercé. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai fait mon enfance là-bas, je suis allé à l'école là-bas. Toutes nos activités se passaient dans la forêt. On jouait dans la forêt, on cherchait les oiseaux, on cherchait les rongeurs, on cherchait tout. À chaque fois que je retourne là-bas, je vois mon enfance. Je vois quelque chose tellement magnifique que j'ai toujours envie de retourner là-bas, quoi.
C'est cette enfance-là que vous retrouvez qui vous permet de créer ?
Voilà, c'est ça. Parce que quand je suis venu à Dakar, j'avais perdu ça. Là-bas, dans la forêt, par exemple, on entendait les bruits des oiseaux, des animaux et tout ça. Et à Dakar, quand on rentre à Dakar, on entend autre chose. Le bruit des voitures, des gens, de tout ce qui se passe dans le centre-ville. Alors que là-bas, on entendait quelque chose de plus philosophique, de plus spirituel. Il y a des esprits dans la forêt, il y a des êtres. Parce que même la fleur que tu vois, c'est un être vivant pour moi. Il vit, il grandit, il fait des bruits, il fait des sons. Parce que l'arbre qui pousse, le vent qui tape les feuilles, ça fait des bruits. L'oiseau qui passe, ça fait des bruits. Ça pour moi, c'est quelque chose qui est spirituel, c'est quelque chose qui est vraiment vivant, plus intéressant que l'homme pour moi.
Vous vous sentez mieux parmi les animaux, parmi les plantes, parmi la faune, la flore de la forêt, parmi les hommes de la ville, c'est ça ?
Je dis non, parce que pour créer, j'ai besoin de l'énergie des gens pour créer.
C'est pour ça que vous créez en ville, en fait ?
Voilà. Je ne crée jamais une toile tant qu'il n'y a pas mes potes qui sont autour de moi. On discute, on rigole et je laisse la toile ici. C'est eux-mêmes qui voient les êtres que je crée. Souvent, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, je vois une tête là, je vois un être là ». C'est comme si tu marches dans la forêt avec les yeux fermés, mais tu entends des bruits et tu essaies d'imaginer la forme de ce que tu entends.
C'est Platon qui disait, donc Platon le philosophe de la Grèce antique, qui disait qu'on ne pouvait pas copier la nature dans l'art, sinon ce n'était plus de l'art. Est-ce que vous copiez la nature, vous ?
Non, je n'essaie pas de copier la nature. J'essaie d'extérioriser ma nature à moi. Ce que je ressens, de ce que je vois de la nature.
Voilà, l'atelier d'Aliou Diack se trouve dans le quartier des Parcelles Assainies. Rien de très naturel ici, on est tout près d'une voie rapide. Mais à l'intérieur de son atelier, des plantes, des oiseaux. Comme pour rappeler à l'artiste la forêt près de son village natal dans la région de Mbour. Il revient d'ailleurs souvent pour y trouver l'inspiration.
Les pigments que j'utilise, ça vient de la forêt. Ça vient des arbres morts. Ça vient de tout ce qui est mort dans la forêt. Par exemple, tu vends un arbre, tu prends les écorces, tu prends les racines d'arbre et les feuilles d'arbre. Je pile, je tamise. C'est un processus pour avoir cette sorte de poudre naturelle. Et c'est comme si tu prends la mort et tu essaies de lui redonner vie. Comme je travaille mes pigments, je prends les mêmes racines, les mêmes pigments que je prends dans la forêt et je les verse sur la toile. Et j'attends que la pluie tombe ou bien je mets de l'eau et j'attends que des formes se dessus. C'est comme si quelqu'un qui recherchait la vie quelque part.
On dit souvent que c'est difficile de vivre en tant qu'artiste au Sénégal. Ce n'est pas toujours un statut social qui est reconnu. Mais quant à vous, comment ça se passe?
Bien vrai que c'est un peu difficile. Mais pour moi, tout est difficile sur Terre. Le fait d'être un artiste, le fait d'être un menuisier, le fait d'être n'importe quoi, tu peux tout ce que tu veux. Mais pour moi, c'est la perfection qui est intéressante. Le fait de faire comprendre aux autres ce que tu es en train de faire. Au Sénégal, c'est un peu difficile parce que la population civile ne s'intéresse pas à l'art. D'habitude, il n'y a que les gens riches ou bien il n'y a que les Occidentaux qui viennent s'intéresser à l'art. Alors qu'on utilise souvent la vie quotidienne des Sénégalais pour... Ça inspire tous les artistes, si vous comprenez vraiment l'art contemporain au Sénégal. Alors que les gens qui nous inspirent ne sont jamais invités dans les vernissages. Et pour moi, ce truc est un peu, je ne sais pas comment dire ça, c'est un peu compliqué. Pour moi, le fait de faire comprendre aux autres, c'est quoi le rôle de l'art. Je dis souvent à mes amis que l'art, ce n'est pas le fait de peindre. Tout le monde peut le faire. Toi, tu peux le faire. Le rôle d'un artiste, c'est d'apporter la solution dans la vie des autres.
Et quelle est votre solution que vous apportez?
Pour moi, là où je me sens vraiment artiste, c'est quand je sors dans la rue. Je vois quelqu'un qui a besoin de mon aide, quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Moi, en tant qu'artiste, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Comment je dois intervenir en tant qu'artiste, sans la peinture, sans faire des sculptures? Comment je dois intervenir dans sa vie avec un simple dialogue? On discute, on parle de gauche à droite. J'essaie de lui faire sortir des solutions. Pour moi, c'est ça le rôle d'un artiste en tant qu'Africain. Parce qu'on doit comprendre quelque chose. Dans un pays en développement, dans un pays en construction, on a plus besoin d'artistes que de stars. Parce que l'artiste, c'est celui qui donne des idées, celui qui apporte des choses pour le développement. On n'est pas comme la France, on n'est pas comme les États-Unis. On doit juste intervenir dans la vie des gens en tant qu'artistes. En Afrique, on a toujours eu des artistes. Si tu marches dans la rue, par exemple, tu vois que tout est installation. La femme qui vend des cacahuètes d'or. Tu as vu comment elle organise ses choses avec les couleurs et les formes. Pour moi, on a vécu dans un monde d'artistes. C'est ça qui m'inspire plus, le fait d'être dans mon atelier.
Voilà le travail d'Aliou Diack, présenté jusqu'à la fin du mois par la très belle galerie OH dans le centre-ville de Dakar. Aliou Diack, interviewé pour Bain de Culture par César Miremont. Vous restez avec nous, Bain de Culture, ça continue. Dans la deuxième partie, on va vous parler de Jean-Paul Dubois, le romancier français, distingué cette semaine par le prix Goncourt pour « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon ». Comme chaque année, Aurélien Devernois, l'un de nos correspondants à Paris, était en embuscade face au célèbre restaurant parisien Le Drouan, où se joue l'épilogue. La cérémonie, comme si vous y étiez dans quelques instants. Et puis, on parlera aussi cinéma avec les semaines du film européen qui reviennent dans quatre villes au Maroc, Rabat, Casablanca, Tanger et Marrakech. À tout de suite.
Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you've let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, then a rock was formed when you held me. Thank you for that gleam that falls.
love you. I love you. I love you.
Midi, bain de culture avec David Labo.
Et dans cette deuxième partie, on va parler du Goncourt décerné cette semaine à l'écrivain Jean-Paul Dubois et de cinéma. Cela fait 27 ans que la manifestation existe au Maroc, un panorama du cinéma européen dans quatre villes. Pendant un mois, ça commence demain à Marrakech. On en parle dans un instant avec un responsable de l'Union Européenne à Rabat en charge de cette manifestation, Alessio Capellani. En attendant, le beatmaker français Guts avec ce titre formidable, Vivre sans amour.
À partir de cet instant, la liberté sera quelque chose de vivant et de transparent. Et sa demeure sera pour toujours le cœur de l'homme. À table avec un regard pur. Une seule chose reste interdite. Sans amour.
Bain de culture, cinéma.
Alessio Capellani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef adjoint de la délégation de l'Union européenne. Vous êtes en charge notamment des semaines du film européen. Quatre villes sont concernées au Maroc. Marrakech, ça commence demain. Il y aura aussi Casablanca, Tanger et Rabat. 8 films proposés au public marocain cette année. Des films récents, sortis il y a très peu de temps, ou pas encore d'ailleurs. C'est la 27e édition de ces semaines du film européen. On va parler de quelques-uns de ces films. Mais avant toute chose, l'intérêt de cette manifestation, j'imagine que c'est pouvoir diffuser la culture européenne, apporter une certaine image aux autres pays de ce que peut être l'Europe, la société européenne.
Tout à fait, vous l'avez dit, c'est la 27e édition, donc c'est un rendez-vous que nous avons introduit au Maroc depuis 1991. Et l'idée, c'est, comme vous l'avez dit, c'est de faire connaître la société européenne, les différentes facettes de la société européenne à travers la production cinématographique. Donc ce que nous faisons, ce que nous essayons de faire chaque année, c'est de montrer à la fois donc des films de qualité qui ont été primés, qui ont été présentés dans les grands festivals européens, Cannes, Berlin, Venise, etc. Et à la fois de donner de la visibilité à des auteurs très connus. Cette année, on aura Costa Gavras, on aura Marco Bellocchio, Ken Loach, Coreda, avec un film franco-japonais avec Catherine Deneuve et Juliette Binoche, mais aussi à des cinéastes émergents. Cette année, on aura plusieurs cinéastes du nord de l'Europe, Gustavo Möller, danois, un réalisateur islandais, Ilmur Palmason, et aussi une réalisatrice allemande. Donc l'idée, c'est vraiment d'offrir aux cinéphiles marocains un peu un regard diversifié sur la société européenne, comme chaque année.
8 films proposés cette année, dont notamment ce film très attendu, c'est le dernier Costa Gavras, Adults in the Room. Adults in the Room, cela parle de la crise financière grecque, la déroute de ce petit pays d'Europe, l'élection du parti de gauche, Syriza, avec à sa tête Alexis Tsipras et Yanis Varoufakis, qui avait été son ministre de l'économie, un personnage haut en couleur. On comprend que c'est inspiré comme cela à Costa Gavras et qu'il a eu envie d'en faire un film. Alessio Capellani, le film n'est pas tendre avec Bruxelles, c'est le moins que l'on puisse dire, la façon dont tout cela a été géré. C'est un peu un film réquisitoire, c'est toujours un cinéma engagé, hein, si on le sait, Costa Gavras. Et pourtant, l'Union européenne le présente dans le cadre de son festival. Vous êtes fair play à Bruxelles, hein ?
Tout à fait. On n'est pas seulement qu'on montre les films, mais on aura aussi l'honneur de pouvoir avoir avec nous Costa Gavras, qui sera à Marrakech les jeudi 14 novembre. Donc, il présentera son film au Colisée à Marrakech les soirs du jeudi 14. Et on discutera avec le public après la séance. Et les vendredis 15, le matin, il y aura une masterclass avec les étudiants de l'université Kadi Ayad et avec les étudiants de l'ESAV. Donc, l'idée, on veut vraiment que Costa Gavras puisse nous donner son regard, pas seulement sur les films, mais sur la crise financière grecque et sa gestion au niveau européen, mais également, bien évidemment son œuvre, qui est une œuvre très importante. Costa Gavras, dans son film, il s'attaque à la crise grecque, à la gestion de la crise grecque. Il a un regard assez critique, surtout sur ce que lui, il considère, bien évidemment, les dérives du système néolibéral. Et donc, il a ce regard qui est basé sur les livres de Varoufakis, donc l'ancien ministre des Finances, qui a enregistré, en effet, les réunions qui s'étaient nées à Bruxelles et dans le cadre de l'Eurogroupe. Et donc, c'est un regard assez intéressant sur ces moments très difficiles et très critiques de l'histoire récente, pas seulement de la Grèce, mais je dirais de l'Union européenne.
C'est trépidant, c'est raconté comme un polar, remarquablement filmé, beaucoup d'images tournées, caméra à l'épaule. Et sur l'affiche de ce film, Adults in the Room, il y a cette phrase tirée de la chanson des Beatles, « Money can buy me love », l'argent ne peut pas m'acheter de l'amour. On parlait de Marrakech à l'instant, puisque Costa Gavras y sera dans quelques jours pour rencontrer le public marrakechi et aussi les étudiants en cinéma de la ville, que ce soit ceux de l'ESAV, l'École supérieure des arts visuels, ou ceux de la fac de cinéma. Ce réalisateur dont on va parler maintenant, il était venu à Marrakech il y a quelques années, un hommage lui avait été rendu, il avait présenté son très beau film « Tel père, tel fils ». Je parle du réalisateur japonais Hirokazu Koreeda, qui sera présent avec un film franco-japonais, La vérité. C'est une comédie avec à l'affiche donc deux grandes actrices, vous l'aviez dit, Catherine Deneuve et Juliette Binoche, excusez du peu. Dans le film, Deneuve joue le rôle d'une icône du cinéma qui publie ses mémoires. Elle a une très haute idée d'elle-même. Et sa fille, c'est Juliette Binoche. Je vous propose qu'on en écoute un extrait de la bande-annonce.
Quelle actrice vous a le plus fortement transmis son ADN ? Ah, en France, je vois vraiment personne.
Vous avez de la visite, je vais peut-être vous laisser alors.
Non, aucune importance. C'est ma fille avec sa petite famille.
Elle a épousé cet acteur, là.
Oh, acteur, c'est un bien grand mot. Ils viennent pour me féliciter pour mon livre. Comme ils parlaient de tirer à 100 000 exemplaires.
100 000 copies.
50 000, pas 100 000.
Est-ce que tu peux être vaniteuse?
T'es jamais venue voir la pièce que j'ai jouée?
T'es sûr?
Le magicien d'Oz se souviendrait, non?
On est bien d'accord, tu jouais pas Dorothée. L'épouvantail?
Voilà la voix de Catherine Deneuve, un parfait chameau dans ce film avec son entourage, avec sa fille notamment, ici jouée par Juliette Binoche. Alessio, ce film, il a été présenté en ouverture à la Mostra de Venise cette année et ce sera également le cas au Maroc pour la semaine du film européen.
Oui, en effet, il sera aussi notre film d'ouverture dans nos semaines du film européen. Donc malgré le fait que les réalisateurs... est un réalisateur japonais. C'est la première fois qu'il s'élance dans une production hors Japon. Et ce qui est intéressant, bien évidemment, c'est les actrices, notamment pas seulement Catherine Deneuve et Juliette Binoche, mais voilà, bien évidemment, on donne c'est des grandes actrices.
Il y a Ludivine Seignier aussi.
Tout à fait. Et alors, on profite de l'occasion pour souhaiter un bon rétablissement très rapide à Catherine Deneuve, qui malheureusement a été hospitalisée il y a quelques jours. Mais donc, c'est vraiment un film que nous sommes sûrs attirera le public, les cinéphiles marocains. Et ça va être, comme je l'ai dit, les films d'ouverture dans les quatre villes, à Marrakech, Casa, Tanger et Rabat.
Une belle occasion de voir Catherine Deneuve sur grand écran. Catherine Deneuve qui a tourné nombre de ses films au Maroc et qui a été aussi invitée à plusieurs reprises par le Festival international du film de Marrakech. Il y aura aussi le dernier, Ken Loach. C'est toujours un événement, hein, Ken Loach. Ça s'appelle Sorry We Missed You. L'histoire d'une famille qui ne s'en sort pas, qui se fait piéger. Ils achètent une camionnette pour se lancer dans les livraisons pour le compte d'une plateforme internet. C'est censé améliorer leur quotidien. Eh bien, pas du tout, c'est le contraire qui se produit. C'est une satire de l'ubérisation de notre société.
Absolument. Et voilà, Ken Loach, c'est un habitué, je dirais, de nos semaines du film européen. Donc ça va être avec beaucoup de plaisir que nous allons découvrir son dernier film. Sur l'ubérisation de notre société, c'est bien évidemment un sujet important en Europe, et pas seulement en Europe, au Maroc aussi, à cet recours à ces sociétés des services dans des situations pas toujours faciles pour les travailleurs qui sont employés. Et voilà, on va les regarder avec l'humour et la sensibilité de Ken Loach, et c'est avec grand plaisir que nous présentons ces films.
Voilà, les semaines du film européen, donc la 27e édition, ça commence demain à Marrakech au Colisée. Mercredi, ce sera Casablanca au Rif. Et puis à partir de dimanche prochain, à Tanger, à la Cinémathèque. Et à partir du 26 novembre, ce sera à la Renaissance de Rabat. Une petite précision, c'est important, ça coûte 10 dirhams la séance, c'est pas cher.
Et 50 dirhams les passes pour les 8 films. 25 pour cet étudiant.
Qui dit mieux ? 50 dirhams les 8 films et 25 dirhams seulement pour les étudiants. Donc ça fait à peu près 3 dirhams le film. C'est carrément donné. En plus, il se trouve que ce sont de très bons films. Merci beaucoup, Alessio Capellani.
Merci à vous.
Bonne journée.
Et bon film. Hein.
Bon film, bonne journée. Merci, à bientôt.
Au revoir.
Clara Luciani, la musique maintenant sur Medi 1. Et juste après, on parle du Goncourt de l'année. À tout de suite. Hein.
Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chante ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chante? Si je peux l'aider plus belle que sur la photo. C'est le danger l'air. Souvent je change. Regarde-moi, regarde-moi, tu vois. J'ai enlevé mes bijoux, t'es maquillée, le noir à mes yeux. Ôter de rose à mes joues, et je viens nue vers toi. Oh, oh, ôter de rose à mes joues, et je viens nue vers toi. On est héroïne ou on blessé.
Manu, c'était Clara Luciani sur Medi 1. Son premier livre, c'était en 1984, il y a 45 ans maintenant. Un titre à dormir debout, compte rendu analytique d'un sentiment désordonné. Avec à l'intérieur cette phrase, frappée au coin du bon sens. Il avait une faim à manger un pâté de maison. Lire du Dubois, c'est se ménager une parenthèse, s'accorder une pause, caler dans un bon fauteuil ou adossé à un arbre, se laisser aller à la nostalgie de la gravité masquée par une désinvolture feinte, un humour fortement teinté de mélancolie. Voilà bien longtemps que Jean-Paul Dubois aurait dû peut-être recevoir le Goncourt, mais ça y est, c'est fait. C'était lundi dernier, midi 47, un urgent AFP tombe, le prix Goncourt, c'est lui cette année pour son livre « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon ». Le petit monde de l'édition est en ébullition. Comme chaque année, le club du Goncourt est réuni à l'hôtel Drouan, place Gaillon, au cœur de Paris. Et comme chaque année, Aurélien Devernois, notre complice à Paris, était sur place. La réaction de l'un des 10 membres du jury, l'écrivain Didier Decoing, il est au micro d'Aurélien.
Dubois, c'est un roman. Mais quand je dis un roman, je mets un R majuscule, c'est vraiment l'art romanesque. C'est une histoire formidable. Ce sont des personnages auxquels on s'attache et qu'on n'oublie pas. C'est l'imaginaire. C'est le roman tel qu'on aime lire des romans. En France, en tout cas.
Et Jean-Paul Dubois, c'est aussi, c'est le drame, c'est cette histoire d'un destin brisé d'un homme. Ça aussi, vous pensez que les lecteurs vont apprécier ?
Oui, parce que c'est le style de Dubois, c'est d'envelopper la tragédie dans une... Il y a un excipient, si vous voulez, pour digérer le principe actif, qui est effectivement dramatique. Il y a un excipient qui est sucré. C'est-à-dire où même dans les moments les pires, on sourit. Ben moi, ça m'a fait sourire.
Voilà l'éloge du romancier au romancier. La parole maintenant à la vedette du jour, le lauréat Jean-Paul Dubois, toujours au micro d'Aurélien.
Ce qu'il y a dans ma tête, je pense à Virginie Petracco et à Vincent Landel, deux personnes extraordinaires qui m'ont beaucoup aidé, qui ne sont plus là et qui me manquent. Je voudrais aussi embrasser toute ma famille pour tout le chemin parcouru avec moi. Dire toute mon amitié et mon affection à Olivier Cohen et à la maison dans laquelle j'ai grandi, qui est plus une villa au bord de la mer qu'une maison d'édition. Je pense aussi bizarrement à Georges Best, qui est un footballeur de légende que vous devez connaître, M. Pivot, qui était aussi un ivrogne vertigineux et qui a dit une des plus belles phrases pour moi et que j'essaie de m'appliquer, c'est « Je suis vraiment heureux d'être ici devant vous, flatté, mais je suis surtout heureux de me tenir debout. » Voilà.
Et vous êtes assis.
Et je suis assis, ce qui fait...
Est-ce que vous avez rêvé d'avoir le Goncourt ?
Non. Non, j'ai des rêves pourris. J'ai toujours des rêves très tristes et... Non, j'ai jamais rêvé d'avoir le Goncourt.
Où étiez-vous au moment de l'annonce ? Entouré par qui ? Comment ça s'est passé ?
Ah, je suis entouré. Je suis avec mon éditeur et qui me couvre depuis une trentaine d'années, qui est mon père spirituel, mon gourou, mon entraîneur, mon coach. Voilà, mon sparring partner.
Oui. Monsieur Dubois, est-ce que c'est la récompense suprême pour vous, le Goncourt ?
La récompense suprême, c'est de la chance, c'est la convergence du bonheur et de la chance. On mérite jamais le prix Goncourt, on a la chance de l'avoir. Voilà, ça tombe sur la personne qui est sur un alignement de planètes cette année-là. Moi je crois beaucoup à la chance. J'en ai beaucoup bénéficié.
Et vous évoquez justement souvent cette notion de chance, mais quand elle s'accumule comme ça, ça n'est plus de la chance. Il y a autre chose, Jean-Paul Dubois.
Il y a beaucoup de chance. Moi je crois à la chance, je crois au travail, à certaines vertus, mais surtout au final à la chance qui à un moment donné va vous sourire et voilà, vous sortir d'une habitude, du quotidien, mais la chance est essentielle.
C'est aussi un Goncourt de la mélancolie, non ?
Ça, je sais pas. C'est à vous de dire. Moi, je suis pas capable de répondre à ça.
Vous parlez de Georges Best. Vous vous sentez comme le cinquième Beatles maintenant ?
J'aimerais bien. J'aimerais bien avoir l'âge. Mais le destin de Best est un destin assez triste, parce que c'est un type qui a eu l'élégance de mourir très jeune, enfin, vraiment jeune, qui a eu une vie hallucinante et qui est une mort assez tragique, quoi.
Est-ce que ça peut vous empêcher d'écrire le Goncourt, sait-on jamais, ou est-ce que vous avez
m'empêcher d'écrire?
Oui, vous avez continué.
Bah non, pourquoi voulez-vous que ça m'empêche d'écrire?
Ça arrivait parfois.
Mais non, l'écriture, c'est moi, je veux choquer personne, mais l'écriture, c'est un métier naturel. Si on le ressent comme ça, il n'y a aucune gêne, obligation, ni parce que vous avez des prix, ni parce que vous n'en avez pas. C'est une activité naturelle, comme faire du sport, quoi. C'est comme si vous demandez à un type qui vient de gagner un 100 mètres s'il va se remettre à courir le lendemain matin, bien sûr. Il n'y a aucun problème avec ça.
Voilà. La modestie du vainqueur, le Goncourt, tout ça, c'est une question de chance. Et puis connaissant Aurélien, ce n'est pas étonnant qu'il se soit lancé ainsi dans un parallèle avec un footballeur, Georges Best en l'occurrence. Petite piqûre de rappel avant de se quitter. Aliou Diack, le peintre sénégalais qui s'inspire comme cela de la nature. Son exposition, c'est jusqu'à la fin du mois à la galerie OH à Dakar. Rodolphe Loretta, notre saxophoniste du début de l'émission en tournée. À Tanger, ce sera samedi prochain, Casablanca le lendemain. Et puis à Abidjan la semaine suivante, et puis enfin les semaines du film européen. Ça commence demain à Marrakech, c'est au cinéma Colisée. Ce sera à Casablanca ensuite, à partir du 13 au cinéma Rif. À Tanger, dimanche prochain, ça commence au cinéma Rif aussi, c'est-à-dire la Cinémathèque. Et puis Rabat refermera le bal. Ce sera du 26 novembre au 3 décembre, dans le très beau cinéma de la Renaissance, cinéma historique à Rabat. Merci de votre fidélité à Médien. Très bon dimanche. On se retrouve la semaine prochaine.